tous, nous sommes le mercredi 26 novembre 2025. Vous écoutez Info Club Sandwich, votre émission d'actualité locale et associative. Aujourd'hui, on écoute une interview de Margot. Elle a reçu l'artiste musical Louis Aguilar. Aujourd'hui, on rencontre Louis Aguilar, artiste folk d'origine aminoise, qui sort ce 28 novembre 2025 son cinquième album First Impression. Bonjour Louis.
Bonjour.
Alors, on t'appelle l'Americana du nord de la France. Est-ce que tu peux te présenter un peu ?
Oui, bah alors moi je m'appelle Louis, j'ai 35 ans, je suis né à Lille, j'ai grandi à Lille, j'y ai vécu jusqu'à mes 19 ans, 18 ans. Et je fais de la musique depuis toujours. J'ai commencé à écrire des chansons quand j'avais 15 ans et à jouer dans les bars et à faire des disques à peu près à ce moment-là avec les gens que je rencontrais. Quand j'avais 18 ans, je suis parti vivre aux États-Unis pour faire plus de folk et puis rencontrer des gens. Et ensuite, je suis revenu, j'ai fait un groupe, et puis donc ça, c'était vers 2010, et depuis ça, je fais que de la musique, avec plein de groupes différents.
Qu'est-ce que tu dirais qui a vraiment lancé ta carrière ?
Ben, y a eu plusieurs événements. Il y a eu, quand j'avais 17 ans, je faisais déjà des concerts dans des bars avec mes compositions, et j'étais très fan d'un chanteur qui s'appelle Devendra Banhart, et j'étais allé le voir au Splendid à Lille, et à un moment de son concert... Il demandait s'il y avait quelqu'un dans le public qui voulait jouer une chanson. Et donc moi, j'avais joué une chanson. Et à ce moment-là, j'ai joué une compo devant le Splendid complet. Et je pense que c'est la première chose qui a fait un petit peu que mon nom est apparu dans certaines programmations.
Qui t'a fait décoller un petit peu.
Ouais, un petit peu.
Comment est-ce que t'as commencé la guitare? Et sinon, est-ce que tu joues d'autres instruments?
Alors oui, je joue plein d'instruments. J'ai commencé la guitare vers 10 ans et demi, 11 ans, après avoir regardé un concert des Offspring sur MTV2 à l'époque. Et j'avais vu les guitaristes et je m'étais dit, c'est ça que je veux faire. Donc j'avais passé toute mon année de CM2 à faire de la air guitare dans la cour. Et l'été, entre le CM2 et la 6e, ma mère, on était chez ses parents, donc chez mes grands-parents. Puis elle est allée dans le grenier chercher sa guitare de quand elle était étudiante, elle me l'a passée. Et après, j'ai plus jamais lâché la guitare.
Tu joues quoi d'autre, du coup, comme instrument ?
Ben, je joue à peu près tout ce qui a des cordes qui ressemblent à une guitare. Donc, de la basse, du banjo, de la mandoline, essentiellement. Et à côté de ça, ben, je joue pas mal de clavier, de piano. J'adore tout ce qui est les orgues B3 et tout ça. Et puis, ben, pour quand je fais des disques, je joue un petit peu tout ce qui me tombe sous la main. Donc, la batterie et puis les petites percussions aussi, quoi.
Qu'est-ce qu'on retrouve le plus dans tes compos ?
Comme instrument ?
Ouais.
De la guitare.
La guitare principalement.
Ouais, la guitare, ça a toujours été ma meilleure amie.
Ouais. C'est quoi tes influences ? Tu parlais tout à l'heure de David...
De Devendra Banhart ?
Devendra Banhart, pardon.
Bah, mes influences, c'est les gens qui font de la musique le plus librement possible. Ça a souvent une enveloppe folk, quand même. Donc, j'ai toujours beaucoup écouté Bob Dylan, Leonard Cohen, tous ces trucs-là. Puis Elliott Smith, Tom Waits. J'adore les fortes personnalités. Mm-hmm. Des gens qui bossent avec plein de gens, mais qui bossent aussi très très bien tout seul.
Et donc du coup, tu chantes en anglais. Est-ce que c'est de ces influences-là ou aussi tes voyages aux États-Unis
Non, les voyages aux États-Unis, ça a découlé de ça. Mais à la base, ouais, c'est que toute la musique que j'écoutais, elle était en anglais.
Donc quand j'ai commencé aux États-Unis. Parce que la musique et les sonorités...
Bah c'est ça, en fait, c'était ce style de musique qui me portait, et il était en anglais, donc forcément, moi, j'écrivais aussi en anglais. Et je pense que l'anglais aussi, c'est une langue qui... Enfin, pour moi, en tout cas, pour la manière dont j'écris, elle se prête très bien à ce style de musique. Ça ne m'empêche pas d'écrire des chansons en français, notamment avec mes autres groupes. Mais pour ce projet-là, où vraiment je suis la plupart du temps guitare-voix, j'écris en anglais, ouais.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes autres groupes aussi ?
Ouais. Ah bah, depuis 2012, j'ai un groupe qui s'appelle Weekend Affaires, avec Cyril Debarge à Lille. Et ça, c'est un groupe plutôt électro, dans lequel j'écris en français, justement. Et c'est Yuxek qui produit les disques, hein, qui les mixe avec nous, quoi. Et c'est une formule où on est vraiment deux sur scène. Et l'idée, c'est de bien rigoler et de chanter des chansons un peu dansante. Plus ça passe, plus elles sont dansantes.
T'as d'autres projets à côté de ton projet solo et de celui-ci ?
Ouais, j'ai un groupe qui s'appelle Kawataro. Ouais. Et on a un projet, c'est un groupe jeune public. Et on a un spectacle en ce moment qui tourne dans les salles et les théâtres de France qui s'appelle Malou. Et c'est un format de une petite heure destinée aux enfants de à partir de 5-6 ans. On est trois sur scène. Je suis avec Mélissa de Orange Dreams et puis Lara, qui a un groupe qui s'appelle Amoué. Et on est à trois et puis on raconte des histoires en musique pour les enfants.
Ça fait pas mal de projets différents. Ouais. Et on écoute tout de suite ton dernier single Make It Work, donc de ton projet solo Louis Aguilar, qui apparaît sur ton dernier album. That long train of thought was set when that evening I walked. I called you up, you didn't answer. I figured it was for the better, so I walked back home. What else could I do? My whole life I spent looking for you. And there you are, beautiful stranger. I feel like a rich man. I found my treasure and I'm done looking. But if you ever say no, I guess I'll have to let you go. Now all I have to do is find my way into your heart. I want to do it right. I know there'll be a time we'll make it work. I'm not so strong, but I'll always make you feel young. I'm pretty good at telling bad jokes, and late at night, sometimes I smoke, but not too much. I think of you when I sing, and I'll take you out when it's spring. I call the birds by their names, even when they all look the same. And you know I can't lie. But if you ever say no, I guess I'll have to let you go. Now all I have to do is find my way into your heart. I want to do it right. Cinquième album sort ce 28 novembre et j'ai pu l'écouter en avant-première. C'est un album acoustique aux sonorités country, folk. Qu'est-ce que tu as à nous partager sur ce projet ?
Sur cet album, il est dans la continuité des autres albums que j'ai faits. Mais à chaque album, j'essaie de renouveler un peu le propos. Pas tant dans... Enfin, si, quand même dans les chansons que j'écris, parce qu'à chaque fois, c'est des nouvelles chansons. Là, ce qui est un petit peu différent des autres disques, c'est que celui-là, je l'ai vraiment fait entièrement tout seul, chez moi. Et donc, j'ai joué tous les instruments. Et c'est un peu mégalo de dire ça, mais on n'entend que moi dedans. Même les voix, c'est que moi. Et ce qui est différent, c'est que c'est un album qui a pris plus longtemps à faire que les autres. D'habitude, un album, je le fais en 6 mois, 1 an maximum. Et là, celui-là, ça fait... une paire d'années, au moins 3 ans que je travaille dessus. Et pour l'écrire, je suis allé chercher dans ma vie, dans plein d'histoires. Et puis j'ai aussi sorti de... Enfin, il y a un morceau, Monsters, dessus, qui est un morceau que j'ai écrit il y a plus de 10 ans, je crois. Et donc c'était l'occasion de le mettre sur disque parce que je l'avais un petit peu oublié. Parce qu'en fait, quand j'écris un disque, là, il y a 10 morceaux sur l'album. Mais rien que pour ce disque-là, j'ai dû en écrire 30 ou 40 des chansons. Et après, je fais un tri. Et donc, sur chaque album, il y a un tri comme ça qui se fait. Donc, j'ai des tiroirs remplis de chansons qui servent jamais, mais qui existent quelque part. Et là, je sais pas, au moment genre, où je finissais d'enregistrer le disque, je me suis souvenu de cette chanson. Je me suis dit, tiens, c'est le moment où il faut que je la mette.
Peut-être qu'elle allait bien aussi avec l'univers de ce projet.
Ouais, je pense.
Et quels sont les thèmes prédominants dans tes paroles, dans tes chansons ?
Ben, le thème prédominant depuis toujours, ça a quand même été la rupture. C'est quand même essentiellement des chansons de rupture. Mais qui se passent d'une manière ou d'une autre. Il y a parfois des ruptures qui se passent bien, il y a des ruptures qui font mal, il y a des ruptures qui sont juste parce que c'est le moment et puis que c'est comme ça. Là, je pense que dans cet album-là, il y a aussi plus de nature. À mon avis, il y a plus d'évocation de la nature parce que avec tout ce qui s'est passé dans les dernières années, à la fois dans le monde et puis dans ma vie perso, je me suis beaucoup recentré sur des choses plus simples et plus naturelles, j'ai envie de dire. Et donc, naturellement, ça, je pense que ça transpire un peu dans les chansons que j'écris. À chaque fois, il y a un moment où ça parle d'oiseaux, où ça parle de rivières, où ça parle de forêt. Je peux pas faire autrement que d'essayer d'échapper un peu au tumulte en écrivant des chansons.
Et ça vient de tes voyages aussi, tes différentes aventures. En quoi ta vie un peu de voyageur a-t-elle influencé tes textes et tes compositions ?
Ben, plusieurs choses. En fait, il y a à la fois les rencontres, donc les histoires que les gens m'ont racontées ou les histoires que j'ai vécues moi-même avec des gens, que ce soit partir aux États-Unis, vivre là-bas au bout de 2 semaines, me faire embaucher par un groupe de country en tant que guitariste pour aller faire des tournées de rodéo à 10 heures de route, où on devait partir avec une caravane et puis le matos, et on devait sortir les chevaux avant de sortir le matériel, parce que apparemment une batterie ça n'a pas besoin de manger autant qu'un cheval, et qu'après le chanteur il allait faire des compètes de rodéo, on espérait qu'il se casse rien, parce que c'est quand même assez dangereux comme sport j'ai l'impression, et après ces compètes là nous on faisait comme un groupe de balles en fait, mais on jouait que des morceaux de country, et on jouait de 3h, 4h dans des saloons ou dans des grandes salles de balles. Parfois, il y avait des bagarres comme dans les Blues Brothers. Et ça forge un peu la manière d'écrire en termes de structure de morceaux, d'efficacité, d'histoire que je raconte. Après, en termes de voyage, la plupart des voyages que j'ai faits, c'est quand même des voyages de tournée. C'est quand je suis allé faire des concerts. Donc, c'est les gens qu'on croise, les paysages qu'on voit, les longs moments dans le camion ou dans les trains à regarder le paysage et puis à imaginer ce qui pourrait se passer quand on rentre ou ce qui aurait pu se passer avec quelqu'un qu'on a rencontré sur une date et puis qu'on ne reverra jamais de la vie. Et c'est toutes des petites histoires comme ça qui mises bout à bout, font des chansons, quoi. Puis après, en termes de musique, c'est vraiment les rencontres avec d'autres musiciens. Mmh. Moi, j'ai beaucoup joué et beaucoup fait de premières parties avec plein d'artistes différents. Et donc, à chaque fois que j'en rencontre, j'essaie de jouer un peu de musique avec eux. Que ça soit des Américains ou même Manu Chao. Il y a quelques années, je me suis retrouvé à jouer en loge avec Manu Chao, complètement inattendu. Il y a eu un pont entre mes cours d'espagnol du lycée et puis ma vie de maintenant qui était assez absurde. Mais j'ai regardé la manière dont il jouait la guitare et puis la manière dont c'est détendu de jouer. Et puis en fait,
surtout Manu Chao.
Bah, c'est ça. Et que le bonhomme, il a plus de 60 ans et puis il enchaîne des concerts de 3 heures pied au plancher. J'ai jamais vu ça, quoi.
Depuis toujours.
Ouais, depuis toujours. Et donc ça donne envie, en fait, ça forge un petit peu le caractère dans le sens où on a envie d'écrire des choses pour qu'elles soient partagées. Là où sur des précédents disques, j'avais peut-être plus tendance à écrire peut-être plus pour moi, d'une manière un peu plus introspective.
Parce que tu parles de tournée, t'as beaucoup bougé, on t'a retrouvé aussi en tant que finaliste d'abord dans les Un Rock Lab en 2015, aux Inouïs du Printemps de Bourges, et même du coup en collab avec Julien Doré, avec Pomme. Quels sont les temps forts et les rencontres qui t'ont le plus marqué personnellement et même dans ta carrière ?
Ben, il y a eu un truc qui s'est passé, je ne saurais pas l'expliquer. C'est vraiment un enchaînement de rencontres. Quand je suis rentré des États-Unis, j'ai fait un disque, j'ai monté un groupe avec des copains à Lille autour de mes chansons. Et j'ai autoproduit un disque parce que j'avais envie de tout de suite enregistrer les morceaux que j'avais écrits aux États-Unis. Donc on les a orchestrés pour le groupe, on a joué. Et ce disque-là, il a pas mal marché à Lille et autour. Et il a pas mal tourné, même jusqu'à Bruxelles. Et c'est à Bruxelles qu'il y a une amie d'amis qui l'a entendu. Et il se trouve qu'à ce moment-là, elle faisait un clip avec Julien Doré. Et que dans le camion, elle l'a passé. Et moi, je me retrouve, 3 mois plus tard, à recevoir un mail de Julien Doré qui me demande s'il peut reprendre ma chanson. Et du coup, évidemment, j'accepte. Et puis, il la joue à la télé, il la joue à la radio, il la met sur son disque. Et d'un seul coup, quand je parle à des gens de la profession, entre guillemets, des gens qu'on croise dans des festivals, les éditeurs, les labels, les tourneurs, il n'y a plus exactement le même rapport. C'est comme une sorte de nouvelle chose sur mon CV qui fait que on va peut-être penser à moi un petit peu plus. Donc ça a été un gros coup d'accélérateur aussi, la reprise de Julien Doré. Et c'est ça qui a découlé sur, après, je jouais dans un festival à Brighton, et puis un attaché de presse me présente un éditeur en disant, voilà, c'est Louis, il a fait ça avec Julien Doré, machin.
Et tout s'enchaîne.
2 semaines après, j'ai un coup de fil. On vient de signer une nouvelle artiste chez Polydor. Elle s'appelle Pomme. On n'a pas encore vraiment de chansons. On cherche. Est-ce que ça te dirait d'écrire des chansons? Est-ce que tu écris en français? Oui, bien sûr. Gros pipeau de l'espace. Parce que j'écrivais qu'en anglais. La dernière fois que j'avais écrit en français, je devais avoir 13 ans, quoi. Et je propose 5 morceaux. Et puis, quelques jours après, je reçois un autre mail. C'est toujours des mails ou des coups de fil. Elle a adoré En Cavale, donc allons-y.
C'était son premier morceau ?
Et c'était son premier EP. C'était
pas son premier morceau. Son premier EP, carrément. Okay.
C'est son premier EP, ouais, qui était écrit avec... En fait, plein de gens ont participé. Il y a eu Vianney, il y a eu je sais plus qui d'autre. Ben Mazuet, je crois que c'était sur le disque juste après. Mais à chaque fois, c'est rigolo parce que quand je recroise ces gens-là, aussi on parle de Pomme souvent. Mm-hmm. Même Pomme, je l'avais recroisé quelques années après ses premiers disques. Enfin, c'est une grosse, grosse fierté d'avoir participé à ça au tout début, même si ça reste dans un côté ultra... Je le voyais pas à l'époque, parce que j'avais la vingtaine et tout ça, mais on était encore dans la fin, encore, ça, c'est encore maintenant, mais il y a quand même un côté vachement paternaliste du milieu de la musique.
Oui.
On a trouvé une jeune chanteuse, on va demander à des gars plus aguerris de lui écrire des chansons.
Patriarcal, presque.
C'est ça. Et du coup... J'ai en même temps cette fierté d'avoir participé à la carrière de Pomme en quelque sorte, même si c'est vraiment un grain de poussière.
Après,
par rapport
dis,
à
c'est une participation.
Par rapport à tout ce qu'elle a fait derrière, mais ça permet aussi d'avoir une réflexion sur le milieu de la musique et puis de se dire oui, j'y ai participé parce qu'on me l'a demandé et tout ça, mais avec du recul, c'est quand même un peu à l'ancienne.
C'est un peu
un petit peu trop à l'ancienne à mon goût, quoi. It's all gonna be fine. Cause no one is out there to hurt you or to do you wrong. Please believe me, for I'm the only one around. There's no need to rush out, no need to stare at the ground. You should know that out there, no one is strong enough to hurt you, so don't you cry. It's just a dream that you have, but you're not being followed by anything but your own mind. We'll be right back.
C'était Kill Me Tonight, un titre de l'album It's All Gonna Be Fine. Quel est ton parcours depuis ce projet sorti il y a 10 ans maintenant, en 2015 ?
Mon parcours, il a été un petit peu... Comment dire ? Ouais, je sais pas, j'aurais pas à dire. En fait, il s'est passé plein de trucs. Il y a eu des disques, il y a eu des concerts, pas mal de rencontres. Il y a eu aussi deux enfants entre deux, ce qui ont pris pas mal de temps, mine de rien. Et puis, non, je sais pas, je pense qu'à l'époque de ce disque-là, j'avais 25 ans.
Et qu'est-ce que tu pourrais dire, du coup, de ton évolution depuis musicale ?
Ben, je pense que je me suis un petit peu... Comment dire ? Déjà, le groupe, j'ai arrêté de jouer en groupe, à peu près après ce disque-là, parce que ça correspondait au moment où je commençais vraiment à m'installer à Amiens, alors que le groupe, il était à Lille. Et en fait, bah, c'est la force des choses. Chaque membre du groupe avait un petit peu d'autres choses à faire dans sa vie. Ça devenait de plus en plus difficile de s'organiser. Et moi, je sentais que j'avais besoin de refaire des choses vraiment tout seul. Donc, en fait, ça correspondait aussi à un moment où... Ouais, je sais pas, je me suis un petit peu... Pas renfermé, mais je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire moi tout seul vraiment en termes de... d'écriture, de compos et puis de concert aussi. J'avais envie de rejouer tout seul, juste avec ma guitare. Parce que sur scène, c'est comme ça que je suis le plus à l'aise finalement. Même si j'arrête pas de dire qu'il faudrait que je refasse un groupe parce que ça me manque de jouer en groupe et tout ça. J'aime bien le côté tout seul avec ma guitare, de me dire bah, j'arrive, j'ai rien. J'ai un câble, un accordeur et puis une guitare. Et puis il faut que j'arrive à faire mon travail comme il faut, sans artifice.
Peut-être un de ces jours. Un groupe, un
peut-être.
Retour sur scène à plusieurs. Et du coup, qu'est-ce qui compte le plus pour toi dans ta musique ?
Ben, c'est le fait de pouvoir la partager, en fait. C'est de pouvoir la jouer devant des gens. J'adore aussi, je sais pas, la création en tant que telle. De me lever le matin en me disant, ben là, il y a des morceaux qui n'existent pas encore, il y a des chansons qui n'existent pas encore, je vais les fabriquer. Il y a un côté un petit peu artisanat de me dire comment je vais faire pour fabriquer une chanson à partir d'une émotion ou d'un petit bout d'histoire ou parfois un petit bout de phrase. Ça, j'aime bien parce qu'en fait, ben, tout est possible. Il y a pas de, il y a zéro limite. Si j'ai envie de mettre 14 batteries dans une chanson, je peux. Ça servirait pas beaucoup de propos, mais je pourrais. Et donc, j'aime bien le côté complètement libre. Et puis aussi le côté très introspectif de d'écrire des de juste, je sais pas, me poser avec ma guitare et puis d'écrire des chansons et d'essayer d'aller chercher au plus près de ce que je ressens. Et souvent quand j'y arrive, et ben après je reçois des, enfin quand les gens entendent, mon plus beau cadeau c'est quand les gens ils me disent qu'ils se sont identifiés vraiment mot pour mot à une chanson que j'ai écrite. À ce moment-là, je me dis que j'ai bien fait mon travail, parce que c'est comme quand on, je sais pas, on fabrique un beau canapé ou un, et puis il va parfaitement dans le salon de quelqu'un. Moi j'aime bien que ma musique elle aille parfaitement dans la vie de quelqu'un, donc c'est un peu ça que j'essaie de faire, quoi.
Et c'est quoi la suite pour toi là, après ce nouvel album? T'as une tournée aussi, peut-être un retour au voyage?
Ouais, j'aimerais bien tourner plus. J'ai pas beaucoup fait de concerts ces dernières années parce que bah les enfants ils sont jeunes et j'avais vraiment envie d'en profiter au maximum de toutes ces années-là qui passent super vite. Puis j'étais à un moment aussi de ma vie un peu semé d'embûches où il faut... Enfin, c'est des moments un peu d'introspection où il faut se recentrer, je pense. Essayer de s'écouter. Mais là, je sens que j'ai besoin de vraiment repartir, quoi. D'aller le plus loin possible avec ma guitare et puis de recommencer à faire le plus de scènes possible. Parce que là, je sais pas que j'étais en pause, mais c'était un petit peu... Depuis le Covid, c'était un petit peu calme parce qu'il y a eu les bouchons, il y a eu un peu l'effet entonnoir du fait d'annulation d'un an de concert. Quand ça a repris d'une manière un petit peu bizarre. Il y avait comme une file d'attente. Et puis, j'ai une tendance quand même un petit peu ermite quand je suis chez moi. Je poste pas beaucoup de choses sur les réseaux. J'ai un peu du mal à prendre le pli, à tenir le rythme de la vitesse à laquelle ça va, d'avoir un projet musical en 2025. Je suis plutôt laid back dans ma manière de faire.
Et donc du coup, si on veut te suivre et venir te voir en concert, on fait comment?
Ben, il faut aller sur Instagram. Souvent, je poste les concerts la veille, mais j'essaie de m'améliorer.
C'est quoi ton Insta?
C'est Louis Aguilar Musique, avec un C. Okay. Ça fait 10 ans que je me dis que je vais devenir meilleur dans la communication. Maintenant, c'est que j'ai réussi.
Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui nous écoutent partout en France avant qu'on termine?
Ben, continuez d'écouter de la musique, d'aller au concert. Gobez pas les choses faites avec de l'intelligence artificielle, parce que c'est vraiment se tirer une balle dans le pied, tant en tant que consommateur de création qu'en tant que créateur. Il y a un moment où ça va exploser, ça sert à rien. Donc allez voir des concerts, achetez des disques au merchandising, et si vous commandez sur Uber Eats, payez des pourboires en liquide.
Et ben, un grand merci à toi, Louis, de t'être confié à nous et de nous avoir parlé de ton travail.
Merci.
Qu'on écoute Give It Time. Vous pourrez également retrouver cet épisode sur notre site radiocampusamiens.fr. Merci de nous avoir écoutés et on se dit à bientôt sur Radio Campus.
Some days are dark in broad daylight. One little spark, 'cause none of this feels right. They say it's unlikely, and still there's hope. And if I'm still lonely, still there's a rope. But just give it time. Just give it time. Just give it time. Just give it time. Fell into the pit. Sleep took me back. I'm all filled with grit from some old train tracks. I hate to walk home, pursued by a bear, singing to your glory as if you were there. But just give me time. Oh, just give me time. time, and I'll give it time, I'll give it fucked up. Some called me great, but I just called you up, and now it's all gone. And I'm lying there, but we are not done. I won't lose to this despair. I'll just give it time. I'll give it time.
Vous êtes en direct de Radio Campus Amiens. On vient d'écouter Give It Time de Louis Aguilar. Lundi 24 novembre 2025, Jimmy Cliff, célèbre chanteur jamaïcain de reggae, de ska et de disco, est décédé. De son vivant, il avait publié et composé plus de 30 albums avec plus d'une centaine de titres. Il a également reçu plusieurs distinctions, deux Grammy Awards du meilleur album de reggae en 1986 et en 2013, l'Ordre du Mérite en 2003, c'est un ordre honorifique décerné en Jamaïque aux citoyens qui se sont distingués dans les domaines scientifiques et artistiques. Et en 2010, il a été l'un des 5 artistes à être entré au Rock'n'Roll Hall of Fame, un musée mais aussi une institution qui conserve et archive les moments les plus marquants des artistes les plus influents et ou connus du rock. On termine l'émission avec son titre « I Can See Clearly Now ». Merci de nous avoir écoutés et à demain sur Radio Campus Amiens.